Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus a raconté des paraboles pour nous aider à mieux comprendre notre monde avec son lot de mystères et d'interrogations. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens de l'une d'elles, celle nommée la parabole de la mauvaise herbe.
Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Notre lectrice Sandra va la lire.
Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. »
Alain est de retour parmi nous pour nous expliquer le sens de cette parabole. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Au début de cette série, nous avons appris que la parabole que nous venons de lire nous permet de réfléchir sur la question de l'existence du mal. Aussi, aujourd'hui, nous allons approfondir quelques réflexions à ce sujet, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Dans la parabole lue, les serviteurs du propriétaire du champ posent la question suivante. Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Cette question exprime une interrogation qui se trouve dans l'esprit d'un grand nombre de personnes.
Laquelle?
Nous apprenons que Dieu est bon et juste, qu'il est plein d'amour et qu'il est tout-puissant. Tout ce qu'il a créé est également très bon. Et pourtant, lorsque nous regardons autour de nous, nous constatons tant de choses qui ne vont pas. Le mal et la souffrance sont si présents et ils sévissent partout. Alors en pensant aux attributs de Dieu, nous sommes étonnés. C'est comme s'il existait une contradiction entre la réalité que nous voyons et ce que Dieu est. Car Dieu est parfaitement bon et pourtant le mal se déchaîne, laissant sur son sillage épreuve et douleur. Alors pourquoi en est-il ainsi?
Effectivement, pourquoi? C'est la question que nous nous posons tous, tôt ou tard.
Or, la parabole lue nous donne quelques éléments de réponse sans toutefois satisfaire toutes nos interrogations.
Et quelles réponses y trouvons-nous alors?
Dans cette parabole, le propriétaire répond à ses serviteurs « C'est un ennemi qui a fait cela ». Et plus tard, Jésus explique le sens de cette déclaration à ses disciples en annonçant « L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable ».
Parlez-nous donc du diable.
C'est un esprit invisible qui, comme nous venons de l'apprendre, est l'ennemi de Dieu. C'est le diable qui a introduit le mal dans le monde en incitant Adam et Ève à désobéir à Dieu. C'est encore le diable qui attise et entretient le mal en semant mensonges, tentations et séductions trompeuses. Le diable a essayé de détourner le Christ de sa mission sans réussir, fort heureusement. Le diable s'acharne aussi contre l'Église, en cherchant à la détruire et à compromettre son message.
Le diable est vraiment tout caché, comme la parabole l'exprime. Mais Alain, en admettant que Dieu est bon et que tout ce qu'il a créé était à l'origine fort bon, d'où vient alors le diable?
Le diable est un être créé. Cette mention est importante, car elle nous permet d'affirmer que le diable n'est absolument pas sur le même plan que Dieu. Ainsi, nous pouvons assurer qu'il n'existe pas un Dieu mauvais et un Dieu bon. Non, car le diable n'est pas l'égal de Dieu. Cependant, la Bible n'est pas très précise sur l'origine du diable. Certains textes semblent affirmer qu'il fut créé comme l'un des plus importants et puissants des anges et puis que, par la suite, cet ange aurait envié Dieu et se serait rebellé contre lui, entraînant d'autres anges dans sa chute.
Mais pourquoi est-il important de déclarer que le diable n'est pas l'égal de Dieu ?
Eh bien parce que si le diable était tout aussi puissant que l'Éternel, il serait impossible d'affirmer que Dieu aura un jour la victoire ultime et définitive sur lui. Si l'un et l'autre étaient aussi puissants, ce conflit se perpétuerait durant toute l'éternité et nous n'aurions plus raison d'espérer. Toutefois, la Bible en général, et particulièrement dans cette parabole, nous enseigne que Dieu, le Tout-Puissant, triomphera du diable. Le jour viendra où il ne pourra plus ni semer le mal, ni inciter les hommes à pécher. La parabole évoque le jugement et le châtiment du diable, ainsi que la fin de tous ceux qui pratiquent le mal. Et voici un autre texte qui va dans le même sens. Il s'agit d'Apocalypse chapitre 20, verset 10. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité.
Merci Alain de nous avoir montré que bien que le diable agisse en ennemi redoutable aujourd'hui, il finira un jour par perdre. Car Dieu le Tout-Puissant remportera la victoire et jugera tous ses ennemis. Quelle belle espérance! Mais y a-t-il d'autres leçons que nous pouvons apprendre de cette parabole?
Oui, cette parabole enseigne que Dieu n'est pas l'auteur du mal, car le mal ne trouve pas son origine en Dieu. Écoutons à ce propos ce que Jacques déclare dans son épître au chapitre 1 et au verset 12 à 17. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Ce texte affirme que Dieu donne aux hommes et aux femmes de bonnes choses et non des mauvaises. De plus, il n'incite personne à pratiquer le mal. Lorsque donc nous sommes confrontés au mal et aux tentations les plus diverses, nous ne devons pas blâmer Dieu ni l'accuser, car il n'est pas à l'origine du mal. Parfois, nous voulons montrer Dieu du doigt et l'incriminer, mais une telle attitude est un mensonge de plus de la part du diable qui désire nous embrouiller et surtout nous éloigner de celui qui seul peut nous faire du bien.
Merci Alain. À travers notre étude de cette parabole, nous avons répondu à la question suivante. D'où vient donc cette mauvaise herbe? C'est-à-dire, d'où vient le mal? La prochaine fois, nous répondrons à la question posée par les serviteurs du Maître. Veux-tu que nous arrachions cette mauvaise herbe? Autrement dit, que devons-nous faire quand nous sommes confrontés au mal?
Merci Alain pour vos enseignements clairs et instructifs. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Notre invité Patrick va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera, dans un premier temps, la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, il nous parlera de la fidélité.
À travers sa vie et sa mort sur la croix, Jésus a prouvé sa fidélité envers Dieu, son Père. Il a aussi exprimé sa fidélité envers ses disciples en les aimant d'un amour inconditionnel et constant. De plus, il a tenu toutes ses promesses et tous ses engagements faits aux hommes, aux femmes qu'il côtoyait. Et aujourd'hui, nous voulons proclamer qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu, le chrétien peut reproduire cette belle qualité de la fidélité dans sa propre vie et l'exprimer dans toutes ses relations personnelles. Cependant, dans un premier temps, il nous semble important de commencer à parler de la fidélité dans le contexte du mariage. Selon l'enseignement biblique, un mari et son épouse doivent rester fidèles l'un à l'autre. Il s'agit de la fidélité sur le plan sexuel, car la Bible interdit l'adultère. Elle condamne la pratique de tout rapport sexuel en dehors du mariage. Pourquoi ? Parce que de telles relations ne font que créer tensions et conflits. Elles conduisent les mariages à l'échec, avec toutes les conséquences douloureuses que cela implique. Toutefois, il nous semble important de mettre en garde contre les relations personnelles entretenues avec un ami ou avec des amis qui deviennent importantes, au point que nous en arrivons à négliger nos responsabilités envers notre époux ou épouse. Même si rien ne s'est passé sur le plan sexuel, de même un engagement dans une activité ou une cause peuvent devenir si prenants que nous n'assumons plus notre rôle auprès de la famille. La fidélité, dans le contexte du mariage, consiste à protéger sa vie de couple de tout danger, susceptible de conduire cette relation de première importance à l'échec. Dans tout mariage, un couple doit faire face à des hauts et à des bas, rencontrer des joies et des peines. Or, les moments difficiles, la tentation de devenir infidèle peut se présenter. Lorsque les tentations et les conflits surgissent au sein du mariage, alors demeurer fidèle peut être une rude épreuve. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils prononcent tous deux des vœux de fidélité. Ils s'engagent à s'aimer l'un et l'autre pour la vie, quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent parsemer leur route. Il faut se souvenir de ce vœu, se souvenir aussi que Jésus est fidèle. Il garde ses promesses, il tient ses engagements. De même, tout comme Jésus a fait preuve d'un amour constant envers ses amis, malgré leurs remarques peinantes, leurs comportements affligeants, notre amour pour notre femme ou notre mari doit demeurer constant, même à travers les hauts et les bas, que nous pourrions vivre avec elle ou avec lui.
Merci Patrick pour ces remarques importantes sur la fidélité au sein du mariage. Nous continuerons nos deux séries la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.